Laudetur Jesus Christus.
À la une de ce journal, les Antilles françaises et la Guadeloupe qui s'enflamment dans le sillage des manifestations contre les restrictions anti-Covid, les autorités de Paris se mobilisent. Il était le dernier survivant de la communauté de Tibérine. Le frère Jean-Pierre Schumacher est décédé à l'âge de 97 ans. Vous entendrez le témoignage d'un missionnaire qu'il a très bien connu. Et puis nous reviendrons sur la situation en Tunisie où la grogne monte contre le président Kais Saied qui s'est arrogé tous les pouvoirs.
Radio Vatican, le journal. Manuela Affigi.
Bonsoir à tous. La Guadeloupe aux prises avec une crise explosive. Depuis une semaine, en effet, la mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale a dégénéré en émeute. Violences urbaines et pillages se succèdent sur l'île française. Paris a envoyé des renforts policiers et militaires sur place. Le président Macron a quant à lui appelé au calme. La correspondance régionale de France Emmanuel.
Une situation bien précaire en Guadeloupe au moment où s'ouvrent des discussions entre Jean Castex et les élus de l'île aux belles eaux. Une situation toujours au bord de l'explosion, malgré ce calme très relatif de la nuit dernière, en comparaison à ce que les Guadeloupéens ont connu notamment vendredi et samedi soir dernier, une île qui s'était littéralement embrasée en divers endroits, donnant l'image d'un chaos indescriptible. Au cours du week-end, des dizaines d'interpellations ont eu lieu, ce qui n'a pas empêché des incendies, des barrages, des tirs à balles réelles à l'encontre des forces de l'ordre. Dans les coulisses du pouvoir, il s'agira donc d'apporter des réponses à la crise à pointe-à-pitre. Il s'agira de composer avec le refus des Guadeloupéens du pass sanitaire, devenu obligatoire depuis la mi-novembre. À cela s'est ajoutée une kyrielle de revendications, le coût de la vie, le prix des carburants, les dysfonctionnements de l'État, le scandale de l'empoisonnement au chlordécone dans l'agriculture. Un véritable malaise sociétal récupéré par des bandes armées très éloignées de toutes ces revendications. Fort de France, François Emmanuel, Radio Vatican.
Et c'est au tour de la Martinique de lancer une grève générale ce lundi à l'appel de plusieurs syndicats pour demander là aussi la fin de l'obligation vaccinale pour le personnel soignant ainsi que l'augmentation des salaires et des minima sociaux. L'onde de colère traverse les océans et touche aussi l'Europe du Nord. Les restrictions anti-Covid ont généré des violences aux Pays-Bas ainsi qu'en Belgique. Hier, plus de 40 000 personnes ont manifesté en Autriche contre le nouveau confinement de toute la population, confinement qui est entré en vigueur ce matin. En Allemagne voisine, le ton des responsables politiques se fait chaque jour plus alarmant face à une situation sanitaire jugée hautement dramatique. 4 jours seulement après avoir instauré des mesures sévères à l'encontre des personnes non vaccinées, la chancelière Angela Merkel assure aujourd'hui que ces restrictions ne sont plus suffisantes. Dans une formule choc, le ministre allemand de la Santé a affirmé que chaque Allemand serait vacciné, guéri ou mort avant la fin de l'hiver. Un confinement aussi décrété dans l'archipel des Canaries, mais pas en raison du Covid. Cette fois, c'est le volcan Cumbre Vieja qui pousse les autorités de l'île de la Palma à prendre cette mesure. Une nouvelle coulée de lave se dirige en effet vers la mer et l'on craint l'émanation de fortes vapeurs toxiques. Quelques 3000 personnes sont invitées à rester chez elles. En Israël, vaste coup de filet des renseignements intérieurs en Cisjordanie. Une cinquantaine de membres du Hamas ont été appréhendés. Le Shin Bet affirme qu'il préparait des attaques d'ampleur contre des cibles israéliennes. C'était le dernier survivant de la communauté de Tibérine en Algérie. Le frère Jean-Pierre Schumacher s'est éteint au Maroc hier, le 21 novembre, à l'âge de 97 ans. Le père Jean-Marie Lassos est prêtre de la Mission de France depuis 40 ans. Il a rejoint Tibérine en 2001 sur appel de l'archevêque d'Alger et il y a vécu jusqu'en 2016. Lui a bien connu le frère Jean-Pierre. Il lui rend hommage à notre micro depuis sa petite communauté de Mostaganem dans le nord de l'Algérie.
Le départ de Jean-Pierre me touche vraiment profondément parce que c'est une très très belle figure de moine en milieu musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait les gens. Jean-Pierre, c'est vraiment dans la région de Tibérine, à Médéa, la façade visible du monastère. Je retiens la phrase que lui a dit la mère abbesse de je ne sais quel monastère, parce qu'il a fallu qu'il vive ce drame de ne pas avoir été enlevé avec ses frères. Hein. Il faut quand même imaginer, 7 de ses frères sont enlevés et lui, il reste vivant. Mais cette mère abbesse lui a dit un jour, tu as été épargné pour que tu puisses témoigner. Et je crois que vraiment, ça fait 25 ans que frère Jean-Pierre est un témoin vivant du long film de Tibérine, à la fois de ce drame, mais aussi de la vie concrète de la communauté de Tibérine, en particulier pendant les 10 années noires de l'Algérie.
Des propos recueillis par Claire Riobé. C'est une décision qui laisse perplexe. Quelques jours avant l'arrivée du secrétaire d'État américain au Nigeria, il y a quelques jours donc, les États-Unis ont retiré ce pays africain de la liste noire des pays préoccupants en matière de liberté religieuse. La CAN, l'association chrétienne du Nigeria, conteste cette décision. Cette importante organisation œcuménique affirme ne pas avoir été consultée et surtout, elle affirme que la situation des chrétiens de ce pays reste fragile, victime notamment d'enlèvements de la part de bandits et puis surtout persécutés par Boko Haram et l'État islamique. Afrique toujours et ce nouveau massacre en République démocratique du Congo. Des villages et des camps de déplacés de l'Ituri ont été visés par des attaques dans la nuit de dimanche à lundi. Il y aurait une centaine de victimes, essentiellement des civils. Les soupçons se portent sur un groupe armé ethnique qui sème la terreur dans cette province depuis 2017. Libération de plusieurs prisonniers politiques par les autorités soudanaises. Elles étaient détenues depuis le coup d'État du 25 octobre. C'est là une clause importante de l'accord conclu hier dimanche entre les militaires et le Premier ministre, Abdalla Hamdok, qui a donc été réinvesti dans ses fonctions. Un accord qui a ravivé la colère de nombreux Soudanais qui continuent de rejeter la mainmise de l'armée et s'estiment trahis par Hamdok. Au Vatican ce matin, le pape a reçu en audience les jeunes participants à un concours de Noël parrainé notamment par les Salésiens. L'occasion pour François de souligner toute la beauté de cette fête. Une beauté, dit-il, qui élargit le cœur, l'ouvre à la gratuité, au don de soi et donc d'autant plus fondamentale à vivre dans le contexte actuel. Le pape qui a ouvert les travaux de l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale italienne cet après-midi. Sortie de crise en vue en Tunisie, c'est en tout cas ce qu'a affirmé le président Kais Saied, secrétaire d'État américain. Il faut dire que la communauté internationale s'inquiète tant la confusion est grande dans ce pays depuis cet été, depuis en fait que le président s'est arrogé tous les pouvoirs et il peine d'ailleurs à mettre en place les réformes qu'il a annoncées. Entre-temps, la colère grandit. Alors que souhaite vraiment Kais Saied, largement élu en octobre 2019 ? Élément de réponse avec Vincent Gesser, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans à Aix-en-Provence.
Le président ne veut pas revenir en arrière. Il a suspendu le Parlement, il a suspendu la Constitution, il s'est arrogé de la totalité des pouvoirs. Alors, soit pour aller vers, je dirais, une forme d'incertitude, mais en tout cas, pour tourner la page définitive de ce qu'a été la deuxième République tunisienne, la fameuse Constitution du 26 janvier 2014, qui était la première grande constitution démocratique en Tunisie dans le monde arabe. C'est une volonté de changer en profondeur les institutions du pays et la constitution du pays.
Et à quoi ressemblerait cette troisième république ?
Il s'est exprimé assez clairement. On savait qu'il avait été élu avec plus de 73% des voix en octobre 2019. Et là, il avait clairement dit « je veux une démocratie directe avec des assemblées locales qui éliraient des assemblées régionales et qui enverraient des représentants nationaux ». C'est-à-dire, en gros, proximité locale, favoriser les représentants locaux et en même temps, et c'est ça un peu aussi qui est contradictoire dans son projet, avec un exécutif uni et fort. Et là, ce qu'on voit surtout depuis quelques mois, hein, notamment depuis le discours du 25 juillet, c'est plutôt le côté exécutif fort, pouvoir présidentiel, voire même un peu autoritaire, et on ne voit pas vraiment la démocratie directe. Donc on a une phase de son projet qui est en train de se développer aujourd'hui, mais on n'a pas l'autre.
Est-ce qu'il bénéficie vraiment d'un fort soutien populaire ?
Il y a deux choses. Il y a celle qui avait voté pour lui pour le premier tour, qui reste toujours derrière lui. Il l'a même élargi. Et ce qui a été très surprenant après le 25 juillet, on a même vu des gens qui n'étaient pas forcément ses partisans le rallier au nom de l'ordre, de la restauration de l'État, de la sécurité, etc. Et certains veulent qu'il aille même plus loin dans ce qu'ils appellent en tunisien la politique de nettoyage. C'est-à-dire arrêter les corrompus, fermer les partis politiques qui sont jugés trop mêlés aux affaires, etc., etc. C'est-à-dire limite qu'on peut dire que non seulement il a un soutien populaire, mais il a même un soutien populaire qui lui demanderait d'aller plus loin dans cet aspect autoritaire de verrouillage et de démocratie clairement anti-parlementaire. Donc oui, je pense qu'il reste populaire, même si il est plutôt sur une politique actuellement très autoritaire de verrouillage de la société.
Voilà, c'était Vincent Gesser, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans à Aix-en-Provence. Il était interrogé par Xavier Sartre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin à 8h30 pour un nouveau journal d'information Vatican et international. Belle soirée à toutes et à tous.